Nouvelle semaine qui démarre et déjà c'est aussi un nouveau défi. Mesdames et messieurs, bonjour, merci de nous choisir dans l'émission Club de la Presse. Nous sommes au lundi 15 juillet 2024 et il sonne 11h sur votre radio et vous comprenez sans doute que c'est l'émission Club de la Presse, c'est le premier numéro de cette semaine qui démarre ainsi. Bienvenue au club. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Michel Vitogbe Koko Tomega est à la mise en onde, Gérard Akuta sur la mise en ligne, je suis Pascal Lossou au micro. Vous le savez très bien, nos salutations à l'œuvre fraternelle à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Niro, Radio La Paix à Takpame, Sky FM à Badou, Central FM à Sokodé, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dabaon. Vous pouvez nous suivre également partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales et aussi nos radios partenaires en ligne, notamment Ibn Radio et Radio Lébéné. Club de la Presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, le débat et l'analyse de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et c'est avec nos confrères journalistes en studio, avec moi bien sûr, avec le débat bien sûr. Et vous aussi, vous pouvez participer à ce débat. Déjà à partir de midi, nous vous donnons la parole alors de participer à ce débat en se prononçant sur des sujets débattus ici au Club de la Presse. Confrère journaliste qui est déjà là, c'est Jacques Diakouti. Jacques, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour aux auditeurs et auditrices de Canal FM, bonjour à nos deux techniciens, un qui est en vert comme moi ce matin.
Quoi, vous avez choisi le vert ce matin.
nous sommes écolos ce matin.
D'accord.
Donc, prendre guérison à tous ceux qui sont malades ce matin, ceux qui sont dans les hôpitaux, les cliniques qui sont en train de nous écouter, ceux qui sont actuellement dans les bureaux qui sont en train de nous écouter également. Je voudrais saluer particulièrement le secrétaire particulier du ministre d'État, le général Yark Damham. Je voulais appeler Tchakoura et tous les collaborateurs du ministère de l'Eau. Et Pascal, si tu le permets,
oui.
Je voudrais vraiment lancer ce coup de cœur à l'endroit de la Fédération Togolaise de Football. Parce que Pascal, je ne peux pas imaginer que deux clubs de la même localité. Je voulais parler de Asco de Kara et assez également de Kara qui devait jouer par la coupe du Togo et que la Fédération Togolaise de Football, sachant que c'est une période des Ebala, pourquoi ne pas organiser cette finale là au niveau de Kara pour pouvoir permettre aux populations de pouvoir assister à cette grande finale. Ce à quoi nous avons assisté, je crois que c'était samedi. La finale de la Coupe du Togo.
Du Togo, oui.
Il y avait personne au stade. Le stade était carrément vide. Et la façon dont même les choses sont passées au cours de cette finale laissait vraiment à désirer. Vraiment, la façon dont les choses sont organisées sur une Coupe du Togo, où devait avoir effectivement la fête, on n'a rien senti. Il faudrait que la Fédération Togolaise de Football puisse revoir encore les choses dans l'organisation effectivement de ces matchs. Parce que quand on parle de la Coupe du Togo, ça devait être vraiment une fête, une joie qui devait fédérer les énergies. Et on a privé effectivement cette population de la causa sur cette fête. Donc je crois qu'il faudrait réfléchir une fois encore dans l'organisation des prochaines éditions sur la finale de la Coupe du Togo.
Merci beaucoup Jacques pour ce coup de gueule alors que vous venez alors de faire. Je profite de l'occasion aussi pour faire un coucou spécial à Monsieur Lorson Emmanuel qui est coursier et chauffeur à Inam et qui est un fidèle auditeur alors de cette émission Club de la Presse. Et Irel Nyang, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour au président Jacques, bonjour à toutes les auditrices, auditeurs de Canal FM, bonjour à tous les Togolais. Et beaucoup de courage à ceux qui sont sur les lits des hôpitaux. Et prompte guérison à tous les malades, où qu'ils soient. Que Dieu protège tous les Togolais au cours de cette semaine.
Vous avez bien passé le week-end?
Je remercie Dieu parce que je suis en bonne santé. Ma famille se porte bien aussi. Et Jacques, ici présent, se porte très bien, ainsi que toi, les techniciens de l'autre côté. Quoi de plus normal de rendre grâce au Tout-Puissant en attendant de se rassurer que tout le monde va bien aussi.
Tout à fait. Alors, nous devons rendre grâce à l'heure au Tout-Puissant, puisque c'est lui qui nous donne alors le souffle de vie. Jacques, c'est vrai, je ne sais pas si vous avez eu l'information hier, c'est cette information concernant le décès du maire du Golfe 2, Dr. James Amaglo. C'est pas, comment vous avez appris l'information?
Vous savez, ça fait 2 semaines que on avait appris que le docteur était souffrant. Et pour moi, j'ai cru que c'était une maladie qui devait passer. On souvent se dit que peut-être c'est le palu, peut-être que la personne est en train de se traiter, que la personne va guérir de ce palu. Mais je crois que c'était à partir de jeudi que finalement on a appris que c'était un peu plus sérieux que ça. Qu'il était au niveau de Dr. Lafia. On était en train de vraiment prier pour lui parce que ce n'était pas facile. C'est un monsieur que je connais personnellement pour avoir demandé beaucoup de services au niveau de sa mairie et avec le pasteur Edo Komi. C'est un homme vraiment très ouvert. Il suffit seulement de l'appeler au téléphone pour solliciter des choses, il vous satisfait. Docteur James, je l'ai connu quand il était d'abord avec feu maître Aguibo. Plusieurs reprises, on s'est rencontré avec maître Aguibo et lui, et les Georges Aïdam. Georges, c'est le petit frère. Et il faut reconnaître que c'est un monsieur vraiment très gentil, très ouvert. Et quelqu'un qui savait ce qu'il voulait et là où il allait par rapport au CAR. Après, il a quitté le CAR. Il est allé au FDR avec maître Apevon. Je voudrais sincèrement présenter mes condoléances les plus attristées à la famille, certainement à son épouse, aux enfants et également aux membres des FDR et surtout également à la mairie où il a laissé actuellement un vide avec ses collaborateurs. Vous savez, ce genre de choses, Pascal, c'est Dieu seul qui peut consoler.
Tout à
fait. Nous, les hommes, on est là seulement pour dire ce que nous pensons, ce que nous savons. Mais le seul consolateur, c'est Dieu. Effectivement, que Dieu console la famille, et console également le personnel avec qui il travaille au niveau de la mairie. Également, console également les FDR par rapport à cette disparition.
Uriel, il était le vice-président des FDR, les Forces démocratiques républicaines, bien sûr. Alors, c'est un grand homme quand même que le parti vient de perdre.
Un grand homme que le parti vient de perdre, je dirais plutôt que le pays vient de perdre. Une chose qu'il soit membre d'un parti politique. L'autre chose la plus importante d'ailleurs, c'est qu'il soit serviteur de la nation, le Togo. Il est maire de Golfe 2. Pour ceux qui ne connaissent pas Golfe 2, je crois bien c'est la zone Edranawé.
Edranawé, justement.
Parce que j'ai l'habitude de l'écouter sur Radio Maria, puisque c'est sa zone aussi. Aujourd'hui, c'est une perte de toute la nation. C'est une au-delà de son parti politique, de sa commune. C'est une perte de toute la nation. Hier, lorsque nous avons reçu l'information, c'est vrai qu'on avait déjà bouclé le journal avant de recevoir l'information. Ce qui m'est venu directement en tête est que, est-ce à dire qu'on avait beaucoup de maires malades avant, indisposés avant 2019, avant leur élection? Sinon, on a perdu beaucoup de maires. Trop de maires. On a perdu un maire d'Antiaoudio, on a perdu un maire. Le maire Kéran 1, on l'a perdu. Et James Amaglo, on l'a perdu.
Et même vous vous souvenez alors du lac 3 à Boudrafo?
Oui, et puis, comment l'appelle-t-on? Doufelgou. Doufelgou, hein? La mère de Défalé, on l'a perdu. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Parce que nous sommes en plein processus de décentralisation. Ils sont les premiers élus à essayer ce processus-là. Mais j'avoue quand même qu'en 5 ans, on n'a pas eu la chance de vivre avec tous les élus communaux. Ça, franchement, nous sollicitons la grâce de l'Éternel pour qu'il protège tout le monde, pour qu'il protège surtout tous ces leaders-là qui, nuit et jour, font de leur mieux pour que le pays aille de l'avant. Sinon, c'est, la liste nous inquiète et ce n'est pas une joie de compter du jour au lendemain des Togolais de telle valeur que nous continuons pas à perdre. Cela ne saurait justifier quelque chose. Donc, vivement que le TNL intervienne et que les autorités aussi, les personnes concernées même, prennent soin d'elles-mêmes parce que tout le monde est utile.
Tout le monde est utile. Le fils de Couvé nous a rejoint. Didier Assoba, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour aux auditrices et auditeurs de Canal FM.
J'espère que tu as bien passé le week-end.
Oui, par la grâce de Dieu, à part ce qui ne va pas, le reste, c'est la santé. C'est la santé, on est en bonne santé. De toute façon, on est debout aujourd'hui, donc on rend grâce à Dieu pour cela. Donc, je crois que c'est ce qui compte.
C'est ce qui compte.
Parce que là, on est en train de parler du maire...
James Amaglo.
James Amaglo, qui est parti hier, qui avait, ma foi, encore beaucoup à donner au Togo, parce que... vous savez, c'est des gens qui, toute leur vie, ont fait l'opposition et donc et qui ont commencé par mettre leurs compétences au service de la nation. Donc, James Amaglo, c'est mon maire ou c'est notre maire. Moi, je vis dans la zone là-bas. Et le bureau du journal est également dans la zone là-bas. Donc, c'est notre maire. On sait quelles étaient ses ambitions, quelles étaient ses projets, sa vision pour cette zone où lui-même a vécu pendant longtemps et donc où continue d'ailleurs de vivre parce qu'il a une maison dans la zone. Donc du coup c'est une grande perte, c'est une grande perte, comme Uriel vient de le dire, c'est une grande perte. Ils sont d'ailleurs les pionniers dans le processus de décentralisation, donc les premiers maires élus qui devraient normalement auprès desquels on devrait se ressourcer dans les années à venir si on commence déjà à les perdre comme ça. Mais bon, comme je dis, moi, il faut comprendre l'histoire politique du Togo pour comprendre le parcours d'un certain nombre de leaders de l'opposition ou de cadres de partis d'opposition qui, à un certain âge donné, vu également le parcours, vu également la pression du poste, le stress et tout cela, y compris les maladies inhérentes à la vie de tous les jours, à la vie de tout homme sur la terre, peuvent naturellement succomber en cours de route, comme Dr James Amaglo. Il n'a pas été alité pendant très longtemps, donc sa mort a surpris plus d'un hier. Des gens cherchaient à savoir si c'était vrai, si c'était pas une fake news et tout ça. Malheureusement, bon, voilà, comme on dit chez nous, quand on parle de la mort, ce n'est pas du mensonge. Donc,
tout à fait.
Il est mort. Si on dit qu'il est mort, c'est parce qu'il est mort. Et donc, malheureusement, c'est ça, que la terre lui soit légère. Nos condoléances, naturellement, à sa famille biologique, à sa famille politique et à tout le Togo, parce que ça reste quand même un élu du Togo qui vient de partir comme ça et... toute la commune est en deuil, donc tout le Togo est donc en deuil.
C'est tout le Togo qui est en deuil. Et c'est vrai que la mort n'échappe personne. Et Jacques, c'est vrai aussi, notre corporation n'est pas épargnée par rapport à cette question à l'heure de mort. Et je le dis parce que déjà la semaine dernière, nous avons compté encore un confrère parmi nous qui est décédé. Il s'agit alors de Milek Kagboku, qui est journaliste sportif à Radio Lomé. Oui, ces derniers temps, nous comptons alors des morts parmi nous, parmi les journalistes, parce que on se souvient, entre-temps, c'était Jean-Marie Leblanc de Taxi FM, et après tout, c'est Alassani, alors de Vérité des Peuples, et tout récemment, c'est Milek Kagboku. Alors là, il faut quand même commencer par s'interroger.
Oui, Pascal, vous savez... Il faut reconnaître que le parcours d'un être humain a trois étapes, c'est-à-dire la naissance, la vieillesse et la mort. Et tout être humain que nous sommes, nous ne pourrons pas échapper à la mort. Mais le plus important pour nous, c'est comment nous allons mourir. C'est ça Est-ce par accident? Est-ce par maladie? Est-ce par assassinat? Mais à tout état de cause, que ce soit les assassinats, les maladies et autres, c'est le plus important pour nous. Il faut savoir qu'il y a quand même un créateur qui a toujours sa main également sur nous et qui également nous protège. L'essentiel pour nous, Pascal, il faudrait que nous puissions avoir également l'hygiène et cette habitude en tant que Togolais. Vous allez remarquer que la plupart des Togolais ne font pas ce qu'on appelle le bilan de santé. Les gens sont là, ils se disent, bon, je vis par la grâce de Dieu, je ne tombe pas malade. Et quand je tombe malade, je prends paracétamol et puis ça va.
Est-ce que c'est un cas particulier ou bien c'est l'Africain en général qui est comme cela?
Oui, mais Pascal, c'est pas bien. Vous savez, dans nous tous qui vivons sur cette terre, vous savez, il y a souvent des dépôts hein, dans notre organisme. Et les dépôts peut-être qui ne dépendent pas de nous, qui dépendent peut-être de ce que nous consommons. Donc il est quand même judicieux, ne serait-ce qu'une fois, Pascal, dans l'année, qu'on puisse faire quand même un bilan. Il y a certains, quand vous leur demandez, vous leur posez la question actuellement de savoir, par exemple, quel est leur groupe sanguin, ils ne sont pas en mesure de vous le dire, parce qu'ils ne l'ont jamais fait. Autre chose, Pascal, vous savez, nous prenons des produits. Et ces produits-là créent souvent des problèmes au niveau de nos reins et tout ça. On ne le sait pas. Donc, si on ne fait pas le bilan, lorsque peut-être une petite maladie surgit, comme cela ça a beaucoup affecté déjà certains organes à nous, ça nous crée des problèmes. Donc, moi, je voulais lancer un vibrant appel à nos compatriotes, aux Togolais que nous sommes. C'est vrai, Pascal, certains te diront que non, ils n'ont pas d'argent pour aller faire un bilan de santé. Et vous savez, la santé n'a pas de prix, Pascal. Je ne dis pas que c'est parce qu'on ne fait pas les bilans de santé qu'on meurt. Hein. On peut faire un bilan de santé, on peut mourir. Mais quand vous faites, par exemple, un bilan de santé, vous savez, par exemple, Pascal, que vous avez peut-être l'hépatite B, l'hépatite C, vous avez peut-être l'insuffisance rénale et tout, quand même, un docteur peut vous suivre. Hein. Peut-être que le docteur là peut vous assister. C'est vrai que la vie sera courte, mais Dieu peut vous permettre encore, peut-être avec ces soins-là, d'aller au-delà peut-être de votre espérance de vie. Donc, lancez effectivement cet appel vibrant, effectivement, à nos compatriotes, de tout faire pour faire souvent, ne serait-ce qu'une seule fois, le bilan de santé, de savoir ce que nous souffrons, ce que nous avons dans notre organisme. Et cela pourra vraiment nous aider. Et quand on tombe malade, il faut tout faire également pour aller à l'hôpital. Aujourd'hui, certains vous diront que dans quel hôpital on ira et tout ça, mais cela ne compte pas. Il faut quand même aller. Lorsque vous tombez malade, n'allez pas tout de suite prendre ce paracétamol au bord de la route, les médicaments et de la rue, qui constituent également un problème pour nous. Donc, vivement que nous puissions avoir effectivement cette habitude-là, ne serait-ce qu'une seule fois dans l'année, faire un bilan de santé, Pascal.
D'accord. Uriel?
Alors, je pense que Jacques a complètement préférer prodiguer du conseil au lieu de répondre directement à ta question qui est liée à plusieurs décès dans notre corporation. Je pense aussi m'aligner sur sa logique en continuant par dire que c'est vrai, le conseil il est important, il faut essayer de faire au moins le bilan de santé une fois dans l'année, mais les moyens dont il a parlé ne sont pas une condition négligeable. Aujourd'hui, je parie même que nous quatre ici, personne n'est assuré. Et c'est peut-être quelqu'un dans l'ombre est assuré, mais moi, je ne suis pas assuré. C'est souvent le premier souci. On a peur du coup, on a peur de ce que cela va nous coûter.
Oui.
Et les soins, ce n'est pas tellement accessible à un Togolais lambda. Donc, si l'autorité pouvait encore contribuer à telle enseigne que même les non-assurés, aujourd'hui on parle de l'assurance maladie universelle, bon, ce qui n'est pas encore totalement une réalité sur l'ensemble du territoire, mais l'autorité pouvait faire aussi subventionner beaucoup de choses pour que même non assuré, tu puisses avoir accès, ne serait-ce qu'à un bilan de santé annuel, ne serait-ce qu'une fois comme Jacques l'a développé, ne serait-ce.
Mais est-ce fois. Qu'avec AMU, maintenant, nous ne tendons pas vers cela, avec AMU?
Non, tu sais, ça c'est un gros dossier. Si on doit rentrer là-bas, on ne pourra pas expliquer nos opinions ici. Laissons, avançons dans les explications que nous sommes en train de tenter de fournir. Tu sais, quand il a dit, si on pose la question à... Il y a des gens, si tu lui poses la question, quel est ton groupe sanguin, il est incapable de te le fournir. Mais l'autorité a bien fait d'exiger le groupe sanguin avant l'établissement de la carte nationale d'identité.
Tout à fait.
Donc aujourd'hui, c'est une exigence. Avant de te faire établir la carte nationale d'identité, tu es obligé d'aller connaître ton groupe sanguin pour que s'il y a un souci un jour, on sort ta carte, la carte de ta poche, on puisse immédiatement savoir que c'est tel groupe, donc il doit éviter tel traitement et tel traitement est approprié pour lui. Alors, si on pouvait faire à telle enseigne que le bilan de santé soit accessible pour tout le monde, je pense aussi qu'on pouvait introduire ce bilan de santé-là dans l'établissement de certains de nos documents identitaires. Alors, si on me dit, par exemple, que le bilan de santé, c'est à 10 000, mais nous tous, on ira faire. Même si ça devrait coûter 200 000, que c'est à 10 000, nous tous, on ira faire. Et qu'on l'établisse comme une exigence pour élaborer le passeport ou bien la carte nationale d'identité, je pense que c'est une bonne chose. C'est-à-dire que l'autorité, son rôle, c'est de protéger tous les citoyens. Et la protection de tous les citoyens passe d'abord par notre état de santé. Si on n'est pas en bonne santé, on ne peut rien faire. On ne sera même pas productif à la nation. On sera plutôt des consommateurs, on sera des personnes toujours prises en charge, des cas sociaux, et finalement... C'est une charge extrêmement lourde pour l'État. Donc, que nous soyons tous en bonne santé, et pour que nous soyons en bonne santé, il faut que l'État intervienne plus qu'il le fait aujourd'hui, parce que la santé n'a pas de prix. Intervienne considérablement pour minimiser les coûts, à tous les niveaux, minimiser les coûts pour que les Togolais puissent être en bonne santé en tout temps, en tout lieu et servir le pays.
D'accord, Didier, finalement, avec ces questions de décès, il y a aussi la question des réformes au niveau même du système de santé quand même qui se pose.
Oui, naturellement. Naturellement, quand tu nous posais des questions, j'ai entendu les autres en venant, tout le monde parlait, rendrait grâce pour la santé, parce que quand on a la santé déjà, ça veut dire que celui qui est en forme, celui qui a la santé, peut encore espérer et peut travailler, peut être utile à la nation et à la communauté. Donc quand on n'a pas la santé, on n'a rien. Donc du coup, ça veut dire que la vie de l'homme tient véritablement à cette question de santé-là. Et donc oui, quand on parle de décès, certains peuvent mourir naturellement, mais d'autres meurent parce qu'il n'y a pas de soins, parce qu'il n'y a pas de... ou du soin, ou des soins de qualité, autant pour moi. Et donc, à partir de ce moment-là, oui, la question du système sanitaire va se reposer inéluctablement. Et à partir de ce moment-là, ben, ça va être le débat de tous les jours au Togo. Est-ce qu'on a un système sanitaire assez sophistiqué qui peut répondre aujourd'hui à la demande des Togolais et véritablement prendre soin des maladies, que des pathologies que développent un certain nombre de Togolais dans les différents centres de santé du pays. Ça, c'est la question qui vaut son pesant d'or aujourd'hui. Et tout le temps et chaque fois, on a toujours attiré l'attention de l'autorité que il faut revoir le système sanitaire, rehausser le plateau technique des centres de santé qu'on a, déjà qu'on n'en a pas beaucoup, le peu qu'on a, qu'on prenne soin de plateaux techniques, qu'on recrute des agents de santé de qualité, bien formés, qui peuvent naturellement prendre soin des patients qui y vont. Bon, il y a eu dernièrement, on va dire, une polémique autour du centre... hospitalier universitaire Sylvanus Olympio. Bon, voilà, chacun aura son opinion à lui et aura sa position à lui. Mais bon, tous ceux qui sont une fois allés là-bas au CHU, soit en tant que malade, soit en tant que garde malade ou proche d'un malade, chacun pourra avoir son opinion sur cet hôpital, si est-ce que la question logique à se poser n'est pas qu'on réfléchisse autrement autour de cet hôpital ou qu'on fasse carrément un autre projet au niveau de en ce qui concerne cet hôpital. Il y a d'autres projets en cours qui ne sont pas encore disponibles certainement, mais je pense fondamentalement que si on veut que le Togolais soit en bonne santé, ça ne être en bonne santé ne voudrait pas dire que des gens ne tombent pas malades, ça veut dire que des gens tombent malades et qu'il y ait des systèmes qui puissent leur permettre de se remettre en état une fois qu'ils y vont. Et donc je pense que les centres de santé aujourd'hui restent un recours inévitable pour tout être humain ou tout Togolais qui tombe malade. Et donc quand on parle du système sanitaire, que les autorités des fois souffrent à ce qu'on en parle, parce que ça peut-être attirer leur attention à ce qu'elles fassent davantage.
Oui, je voulais revenir sur un aspect par rapport à la question que tu as posée. Vous savez, il y a également un facteur aujourd'hui qui nous tue, c'est le stress. Vous savez, nombreux sont ces Togolais-là qui sont tellement stressés aujourd'hui. Comment faire pour payer le loyer, prendre soin des enfants, bientôt encore c'est la rentrée. Il y a certains parents qui ont commencé déjà par réfléchir. Vous voyez, je voulais sincèrement inviter les uns et les autres. Vous savez, Pascal, on ne peut pas tout faire sur cette terre avant de partir. Ce que vous pouvez faire, faites-le. Ce que vous ne pouvez pas faire, vous ne pouvez pas, il n'y a rien à faire. Vous ne pouvez pas aller voler pour combler vos besoins. Si vous voulez, on vous arrête. Et ça encore, c'est plus pire encore pour la famille. Donc, et il faut également avoir l'habitude. Souvent, c'est le cas de nous, les journalistes aussi. C'est vrai que nous travaillons à la tâche, on nous paie à la tâche. Pour avoir les congés également, c'est un problème. Il y en a qui travaillent des années, qui ne sont jamais allés en congé. Et lorsqu'une petite maladie surgit, vous allez voir que cette personne-là se retrouve à l'hôpital. On se pose des questions, il était là, bien portant ce matin, au micro, à la technique. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce qu'il lui manque beaucoup de repos. Au moment où il est, par exemple, sur les machines ou bien il est sur le micro, il a également d'autres pensées sur les enfants.
Et il faut aussi des moments de détente.
Mais on n'a pas également, on n'a pas cette vertu. Il y a également, il y a des Togolais aujourd'hui, journalistes également aujourd'hui, qui ne sont jamais allés à la plage avec leurs enfants, ou bien seuls, par exemple, à la plage. Quand vous leur posez la question, ils disent, mais l'argent qu'ils vont prendre pour aller à la plage, cet argent-là peut servir à payer le loyer, ou bien à acheter du carburant. Vous voyez, on n'a pas également cette culture. Il y a des Togolais aujourd'hui, quand vous leur posez la question, sur effectivement certaines villes de notre pays, ils ne connaissent pas. Il y en a qui sont nés à Lomé ici, ils ne sont jamais allés à Thévié. Ils ne sont jamais allés à Ného, ni à Palimé. Ils tournent seulement à Lomé ici. Quand vous leur posez des questions, ils vous diront, mais écoutez, on n'a pas les moyens. C'est vrai, comme je l'ai dit, on ne peut pas avoir les moyens sur cette terre-là. Même l'homme le plus riche du monde, Pascal, il cherche toujours à avoir de l'argent. Il vous dira que l'argent ne suffit pas. Donc je crois que tout dépend de l'organisation, comment on s'organise à la maison. Vous comprenez, même le peu que tu reçois, si tu peux te faire un plaisir avec les enfants, tu peux le faire. Et mon frère, confrère Uriel est ici, de temps en temps, il monte vers le nord. Et quand vous allez, vous revenez, vous sentez quand même que vous êtes sorti d'un stress. Mais si vous êtes tout le temps cantonné dans les quatre murs, vous quittez par exemple votre maison, vous allez au bureau, vous quittez le bureau, vous retournez à la maison. Il y en a qui n'ont même pas le loisir de rester avec leurs enfants, leurs épouses pour causer. Certains, quand vous les prenez, quand ils reviennent à la maison avec leurs épouses et leurs enfants, ils deviennent encore comme des étrangers. C'est-à-dire que ce que l'enfant est, madame est, on ne sait pas. Parce qu'on n'a pas souvent le temps de rester avec les enfants et à la femme et causer avec eux. Déjà le matin, à 6h, on est parti. On revient le soir, 20h, fatigué. On est couché et finalement, il n'y a pas une harmonie. Donc je crois qu'à un moment donné, le peu que nous avons, organisons-nous. Si tu as un salaire, par exemple, de 35 000, je te dis, Pascal, si tu t'organises très bien, tu peux quand même t'offrir un loisir avec tes enfants. Ça, c'est quand même, il faut avoir cette culture-là.
Et justement, il faut avoir cette culture. Jacques, vous le disiez que Uriel monte de temps en temps pour quelques détentes aussi au nord du pays. Nous allons nous y rendre par rapport même, enfin, avec le journal même d'ailleurs de Uriel Enyang. Uriel, votre journal titre à la une alors de votre journal, nous lisons ce matin, promotion culturelle, une semaine dans la COSA. Et là, vous parlez bien sûr alors des rites et des valas et qui ont démarré depuis le samedi 13 juillet. Alors, finalement, comment ça se passe là à Kara?
Oh, bon, comment ça se passe à Kara, c'est une grosse question. comment ça se passe? On peut juste présenter ce que c'est que Vala. Mais comment ça se passe? Il faut qu'on appelle directement un confrère qui est sur le terrain, qui nous décrive depuis samedi comment ça se passe. Bon, nous avons choisi l'angle de la promotion de la culture togolaise.
Tout à fait.
Oui, culture togolaise dans son ensemble. Et pour le compte de la semaine du 13 au 20, nous disons que les regards sont tournés vers la préfecture de la COSA. La préfecture de la COSA qui vibre au rythme des luttes Evala, en présence de plusieurs autorités des curieux, dont le chef de l'État. Cette tradition a toujours mobilisé mille et une personnes, dont les journalistes que nous sommes. Aujourd'hui, ça prend une autre tournure. J'espère bien qu'après Evala, cette promotion dont nous parlons va continuer sur les autres formes de culture afin qu'il y ait vraiment de l'harmonie, afin qu'il y ait un développement harmonieux de toutes les cultures togolaises. Bon, on s'est dit peut-être que c'est la préfecture de la grande partie des autorités, c'est pourquoi Evala connaissent une participation plus ou moins massive. Mais est-ce que on pourra rester dans la logique de la vraie promotion de la culture, c'est le souhait de tout le monde, pour qu'au-delà de la manifestation culturelle dans sa logique traditionnelle, qu'on puisse en faire un secteur économique. Si aujourd'hui, Evala arrive à faire venir des curieux qui quittent l'Europe, l'Amérique, l'Asie, pour venir voir comment ça se passe, je pense que c'est déjà un grand pas. Puisque quand ils arrivent, ils sont obligés de louer les hôtels, ils sont obligés de manger, ils sont obligés de louer des véhicules pour leur mouvement. Donc, c'est déjà un grand pas pour l'économie togolaise. Nous souhaitons, on a souhaité à la fin de l'article, que cette promotion s'étende dans toutes les préfectures du pays pour que le développement ne soit pas un développement déséquilibré, mais un développement harmonieux.
Mmh. Alors, disais, c'est vrai que on nous a toujours habitué à cet aspect de la chose où c'est le chef de l'État même d'ailleurs prend le en quelque sorte le devant de la chose pour le lancement alors de ces festivités. Et au-delà de cela, c'est aussi toute l'administration qui se sent totalement vidée déjà avec cette manifestation culturelle. Alors, et c'est la même chose encore cette année puisque déjà il y a des ministres, des cadres alors de l'administration qui sont partis. Là, ça constitue également un autre blocage pour l'administration.
Peut-être, oui, peut-être, si on doit parler de façon un peu plus lucide, peut-être qu'il faut mettre généralement la parenthèse des Evala, peut-être parmi les, ou sur le calendrier des jours fériés de l'année, comme ça. On sait véritablement que durant les Evala, l'administration togolaise ne fonctionne pas.
Une semaine?
Ben, une ou deux semaines, oui. Que l'administration ne fonctionne pas ou l'administration va fonctionner karma.
En fait, dans les faits, c'est comme ça que ça se passe.
Oui, peut-être que de façon pragmatique et si nous devons être honnêtes avec nous-mêmes Togolais, nous ne devons pas nous leurrer, nous tromper. Disons-nous la vérité que, ok, si vous avez des services de l'État à demander dans l'administration publique, faites-le avant ou durant la fenêtre des Evala, venez plutôt à Kara. Et là, on sait véritablement que on est pragmatique et que il y a quelque chose de national qui est en train de se faire quelque part. Parce que le constat depuis des années, comme tu le dis naturellement, c'est ça. Parce que tout le monde dans l'administration une fois que le chef de l'État là-bas, tout le monde veut être là-bas pour être vu ou voilà, taper dans l'œil du chef de l'État, peut-être pour des ambitions futures. Et donc, du coup, vous allez dans l'administration, il n'y a pas tel DCI, il n'y a pas de secrétaire général, il n'y a pas de comptable, il n'y a plus rien. Et honnêtement, on va dire que l'administration fonctionne, mais dans les faits, l'administration ne fonctionne pas durant cette période. Et il faut même un certain nombre de rendez-vous. Certains vont vous dire, venez après les évaluations. Donc, à partir de ce moment-là, je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait y arriver. Uriel a bien trouvé la réponse de dire que c'est parce que la plupart de nos plus hautes autorités viennent de la région. Et donc, à partir de ce moment-là, quand les autorités montent, leurs subalternes ou leurs collaborateurs directs pensent qu'il faut être à côté du chef. Et donc, à partir de ce moment-là, le travail qui doit être fait de façon un peu plus dans une logique nationale pour permettre au pays de continuer à fonctionner normalement ne se fait pas. Je ne dis pas que c'est si mauvais, mais si on peut trouver un mécanisme, parce que c'est déjà rentré dans nos habitudes depuis des années, je ne sais pas par quel coup de baguette magique on pourra changer cela, mais je ne sais pas si on pourra mettre en place un mécanisme qui permette en fait de minimiser les risques et les pertes que cela pourrait causer et des dommages que cela pourrait causer à des Togolais qui veulent continuer à avoir les services de l'État durant même la période des évaluations, sans forcément se rendre jusqu'à Kara, 420, 430 kilomètres de Lomé, c'est assez long. Et donc, à partir de ce moment-là, il faut peut-être poser la question, une réflexion nationale, peut-être au niveau même directement du chef de l'État, du gouvernement, pour voir quel mécanisme on trouve. Et je profite également pour dire que ça peut être également une aubaine, parce que nos amis, nos frères et nos sœurs, nos parents de la région de Kara et d'autres régions là-bas ne voient pas les autorités tout le temps et n'ont pas assez facilement un certain nombre de services toute l'année. Je prends par exemple les histoires d'immatriculation, les papiers, le certificat de nationalité, un certain nombre voilà, de documents où des gens doivent descendre jusqu'à Lomé pour faire. Si, et voilà, peut-être une occasion où on déloge un certain nombre de services pour ne serait-ce que deux semaines pour permettre, pour rapprocher davantage le service d'un certain nombre de citoyens, vu que les autorités sont là-bas et que les gens qui sont censés travailler dans les administrations montent là-bas. Si on doit amener les machines avec eux pour qu'ils continuent de travailler, en même temps qu'ils tapent dans l'œil du chef de l'État pour savoir sur à quel niveau de la liste ils seront la prochaine fois ou à quel poste on va les nommer les prochaines fois, moi, ça ne me dérange pas trop. Mais si ce n'est pas ça et que l'administration se vide, juste que des gens se déplacent d'arène en arène juste pour suivre le chef de l'État, ça, c'est contre-productif pour l'État et ce n'est même pas la promotion de la culture comme Uriel tentait de le dire tout à l'heure. Parce que si nous devons promouvoir la culture, ça doit prendre d'autres tournants et d'autres formes. Et je chute là-dessus, il le disait également. Après, on fait pour Evala. Qu'est-ce qu'on fera pour Aizan demain? Qu'est-ce qu'on fera pour Tim Bampab? Qu'est-ce qu'on fera pour Dipontre, Sinkarin, Epeekbe? Voilà, est-ce qu'on fera autant pour tout ça, dans une logique un peu nationale, un peu républicaine?
D'accord, alors Jacques, quand on prend une manifestation culturelle qui fait que l'administration est totalement vide, alors finalement, ça n'apporte pas un coup au principe de la République?
Bon, vous savez, je crois que Uriel a bien chuté sur son papier. J'ai lu, j'ai vu. La chute m'a intéressé. Ce que je voulais dire, comment faire pour pérenniser les acquis de Evala lorsque, par exemple, quelqu'un de Kara ne serait plus au pouvoir? C'est ça qu'il faut, il faut voir. Parce qu'aujourd'hui, si on n'anticipe pas, on risque que lorsque, par exemple,
non,
quelqu'un...
Non, on va rectifier, hein, lorsque... il s'agit de la causa, pas
de la
causa, région de la
Kara. Pour moi, de la causa.
Juste de la causa.
De voilà, la causa, si, oui. De la causa. Vous voyez, donc, il faudrait anticiper, comme ils l'ont dit, quel sort réservé aux autres fêtes traditionnelles dans notre pays par rapport à l'ampleur que Evala prend aujourd'hui. Si demain, bon, il arrivait que... ceux qui sont là aujourd'hui ne sont plus au pouvoir demain. Vous voyez? Donc, il faut aller au-delà de cette réflexion. Aujourd'hui, on nous parle par exemple de la culture au Togo. Et quand vous prenez aujourd'hui Evala, vous voyez que Evala draine beaucoup, beaucoup de monde au niveau de la COSA. C'est parce que quelque part, la plupart des pontes du pouvoir vont là-bas. Si demain, par exemple, ils n'y vont pas, les gens ne pourront plus également aller. Donc je crois qu'il faut une fois encore réfléchir sur l'ensemble de la culture au Togo. Comment valoriser aujourd'hui cette culture? Vous voyez, entre les semaines passées, le ministre de la Culture était obligé de sortir une note pour inviter les hôtels, encourager les hôtels à pouvoir faire la promotion de la chaîne nationale, parlant de la TVT. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on veut promouvoir, par exemple, cette culture, il faudrait aujourd'hui que nous puissions avoir une vue d'ensemble sur, effectivement, ces fêtes traditionnelles. Et comment valoriser aujourd'hui ces fêtes? Si, par exemple, demain, par exemple, il y a Tingbampa ou bien Ekpepe ou bien Singaring, bon, qu'on puisse vraiment se sentir togolais. Pour dire que s'il y a cette fête, il faudrait que togolais que nous sommes, nous puissions nous mobiliser pour assister, valoriser également cette fête. Et si on ne le fait pas ainsi, et puis que c'est une seule fête qu'on favorise par rapport à d'autres fêtes, vous voyez, ça crée souvent des problèmes. Parlant par exemple de Ekpepe, nous voyons souvent que cette fête, la politique a finalement dénaturé effectivement cette fête également. Quand vous prenez les pierres qu'on choisit souvent, qu'on est obligé de prendre certaines pierres et les peindre après pour dire que c'est une pierre bleue, alors que ce n'est pas effectivement une pierre bleue, et ça crée également des problèmes. Donc il faut essayer aujourd'hui qu'on revienne à cette valeur de la culture togolaise. Si on ne revient pas, par exemple, à cette valeur, nous aurons des problèmes. Aujourd'hui, l'autre aspect également qu'il faut reconnaître, qu'il faut retenir dans notre culture, c'est qu'aujourd'hui, nous nous perdons souvent également de notre culture. Quand on parle de l'identité culturelle aujourd'hui dans notre pays, certains se perdent, Pascal. Parce que quand vous prenez aujourd'hui quelqu'un d'Anéhor, en quoi vous pourrez l'identifier par rapport à sa culture? Vous prenez quelqu'un comme Uriel Singaring ou bien Sakanté, non? Dans la Bina. En quoi vous pourrez, par exemple, l'identifier? Donc c'est ça. Donc il faudrait aujourd'hui qu'on puisse avoir vue d'ensemble de nos cultures et voir comment valoriser effectivement cette culture. Didier disait tout à l'heure que les gens vont, par exemple, souvent vont à Accra pour assister aux Evala parce que, bon, ils auront le temps de rencontrer le chef de l'État pour lui taper dans l'œil, soit pour dire que je suis là, au cours de remaniement, il faut te rappeler de moi, à telle nomination, il faut ceci, cela. Cela ne devait pas être ça, Pascal.
Surtout les prochaines listes.
Non, cela ne devait pas être comme ça. C'est-à-dire que on ne voit pas une culture pour aller déranger un chef d'État pour qu'on puisse te nommer. Et puis, comme il a dit, Pascal, certains ils vont pour la figuration. Certains vont dire bon.
Mais Jacques, s'ils le font, ça veut dire que hier ça a marché. Donc aujourd'hui, on continue de le faire.
Bon, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit que ça ne devait pas être comme ça.
D'accord.
C'est-à-dire que quand on va, c'est d'abord une fête. Parce qu'on entend souvent les gens dire que c'est compliqué de voir le chef de l'État à Lomé. Mais quand il est, par exemple, à l'intérieur, c'est plus facile de le voir. Donc c'est pourquoi les gens font souvent ce déplacement pour voir si, lorsqu'il y a, par exemple, cette lutte-là, comment faire pour se rapprocher, pour que le chef de l'État puisse, vos yeux puissent se croiser et peut-être faire signe qu'on t'appelle après. Mais quand c'est comme ça, finalement, ce n'est plus, vous n'allez pas aux Evala, mais certains vont par intérêt. C'est-à-dire que l'intérêt que le chef de l'État puisse me voir. Pour, selon ce que Didier, je suis en train de traduire ce qu'il a dit. Si c'est comme ça, finalement, vous n'allez plus aux Evala, mais vous allez pour que l'œil du chef de l'État puisse croiser votre œil et qu'il puisse vous satisfaire par rapport à votre dossier. Et quand c'est comme ça, finalement, ce n'est plus Evala. Mais les gens vont effectivement par intérêt.
D'accord. Oui, Uriel.
Non, je pense que cet aspect développé par Didier, c'est un point de vue subjectif. Hein. Ce n'est pas nécessairement que les gens y vont pour influencer ou bien...
Non, sûrement qu'il a mené une enquête.
Pour se créer des faveurs vis-à-vis du patron. Non, c'est son... Bon, c'est un regard. ça peut être subjectif, donc il ne faut pas prendre ça dans son vrai sens.
Ça peut être également réel.
Bon, oui, oui, mais on ne peut pas.
C'est là où je dis, si ça a marché, ça veut dire que ça se fait aujourd'hui.
Puisqu'on n'est pas en mesure de donner des exemples pour justifier que ça a marché hier. Donc c'est pourquoi j'ai dit, je connais très bien Didier, je sais ce dont il est capable, donc arrêtons là.
Didier aussi,
il y a un aspect qui me tenait dans le développement de Jacques. Vous savez, nos cultures ont un problème. Elles-mêmes, elles ont un problème et la politique est venue renforcer ce problème-là. C'est-à-dire quand vous prenez toutes les préfectures du Togo, à moins qu'il y ait quelqu'un ici pour me démontrer le contraire, la COSA est l'unique préfecture où la culture est harmonieuse. Quand vous arrivez dans tous les cantons de la COSA, on parle de Vala, il y a la lutte, cette tradition-là, elle s'impose à toutes les communautés. Et voilà. Elle s'impose. On parle de Akbema pour les jeunes filles, l'initiation des jeunes filles. Elle s'impose à toutes les communautés. Vous voyez? Vous allez dans la Bina, il y a des cultures même par maison. Je ne veux même pas parler de quartier, ni village, ni canton. Vous allez voir qu'il n'y a pas de l'harmonie dans nos traditions. Et c'est normal aussi. On ne peut pas demander à la famille Didier de se conformer à la tradition de la famille Jacques ou bien vice-versa. Non. Ils sont nés, ils ont retrouvé les traditions de leurs ancêtres ainsi et ils ne continuent pas à les perpétuer. Donc, de l'autre côté, le problème se pose à ce niveau parce que pour harmoniser les cultures, et si on doit revenir à l'origine, en réalité, ça ne doit pas se faire. C'est pourquoi moi, j'ai toujours critiqué ces différentes fêtes préfectorales. Si la COSA a une fête préfectorale parce que la culture est harmonieuse, cela n'oblige pas, par exemple, Doufelgou, Bina, Kéran, ou Vaux, ou Tône, ou Yoto, d'avoir une fête traditionnelle préfectorale, étant donné que la manifestation de leur culture n'est pas homogène. Donc nous forçons. Quand vous prenez, par exemple, chez nous, on parle de Singarin, mais arrivez, vous allez voir. Singarin, à l'origine, s'imposait à une seule communauté. Mais aujourd'hui, pour avoir la vie politique et tout ça, on force et on dit telle fête, elle est préfectorale. À moins que quelqu'un soit à mesure de me démontrer le contraire. C'est pour ça que j'ai dit, bon, quelque part, pour la COSA, ça se justifie parce qu'ils ont une forme de culture qui s'impose à toutes les communautés.
D'accord.
Mais ce que Uriel disait, ce que Uriel dit, bon, après, quand je disais ce que je disais, c'est vérifié. Hein, je te dis que des gens sont actuellement à Kara. Pas, ils n'ont rien même à voir ni de près ni de loin avec Evala. Mais c'est comment faire pour taper dans l'œil du chef de l'État. Et je ne vais pas retirer ça. Et donc, ce que tu dis, mais tu ne contredis pas non plus ce que disait Jacques tantôt sur la dimension politique ou politisée de nos fêtes traditionnelles. Voilà l'argumentation qu'il donne. C'est-à-dire qu'en un moment donné, il y a un système politique qui a voulu qu'on ait des fêtes traditionnelles dans toutes les préfectures, vaille que vaille. Que des gens veulent ou pas. Et à partir de ce moment-là, c'est généralement les personnes qui sont les plus introduites dans le système. On prend les fêtes de leur communauté et on impose à toute la préfecture. À partir de ce moment-là, il y a déjà des germes de la division même autour de l'initiative. Et du coup, au final, ce ne sont pas généralement des fêtes qui sont vraiment des fêtes de rassemblement qui rassemblent véritablement toutes les préfectures. Bon, moi, je viens de Yoto. Je connais la diversité de la préfecture de Yoto. C'est Rougbezan chez nous quand même. Mais bon, combien de gens se reconnaissent véritablement dans Rougbezan? Il y a un certain nombre, mais pas toutes les communautés. Vous allez voir, si on voulait demander à toutes les communautés de célébrer, chacun pourra trouver sa manière de faire. Mais on a imposé et c'est devenu préfectoral. On ne peut plus changer parce que il y a un système politique derrière qui avait voulu, donc, c'était à partir du système du parti unique. Après, ça s'est imposé, on a voulu que ça soit comme ça sur le plan national un peu partout. Aujourd'hui, qui va vouloir remettre cela en cause? on se trouvera comme un énergumène qui sort de quelque part et tout ça. Mais c'est également nos lacunes, nos faiblesses. C'est peut-être des choses que, je ne sais pas si c'est le protecteur du citoyen dans la 5e République qui doit pouvoir réfléchir sur ces choses-là pour voir si on pourrait réviser un certain nombre de fonctionnements même dans le pays pour qu'on puisse être un pays véritablement réconcilié, une vraie république.
Non, je crois que Pascal, le vrai problème aujourd'hui, il faut d'abord qu'on détermine le facteur de l'identité de nos cultures. Si on n'arrive pas à identifier effectivement nos cultures, nous aurons toujours des problèmes. Ça, faut pas qu'on se leurre. Faut pas également qu'on se trompe. Aujourd'hui, il y a véritablement une crise au niveau de notre identité culturelle. Même quand vous voyez les curricula qui sont enseignés dans le temps, au niveau effectivement de nos écoles, il y avait également un problème. Il y avait un problème même au niveau de l'enseignement. Je me rappelle dans un passé récent, vous rappelez, je ne sais pas si Uriel ou Didier ou bien toi, vous avez reçu peut-être la même leçon dans le temps, où on nous disait que le mur, par exemple, des évêques au niveau de Nochin, que ça a été construit par le sang humain. C'est ce qu'on nous avait dit.
Effectivement.
Voilà. Voilà. Mais c'est, au fil des ans, on a constaté que ce n'était pas du tout ça. Vous comprenez? Et quand vous prenez, par exemple, l'histoire de l'ensemble, par exemple, des Togolais que nous sommes, toutes ethnies confondues, quand vous lisez un peu l'histoire des Togolais, on sent que chaque ethnie est venue de quelque part pour pouvoir vivre au Togo. Bon, est-ce que nous avons effectivement un peuple identitaire dans ce pays qui se dit, bon, lui, il n'est pas venu d'eux. Vous voyez, donc c'est ça. Donc si nous n'avons pas effectivement une vraie histoire enseignée au niveau des écoles et que chaque, par exemple, peuple sache dans son histoire, nous aurons toujours ce genre de problème. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle d'Evala. Il faut reconnaître quand même que Evala, dans les années 86, par rapport aux Evala de 2005, depuis un certain temps, on voit que quand même, il y a beaucoup de mutations, il y a beaucoup de changements. Aujourd'hui, Evala prend combien? Je crois une semaine.
Une semaine, oui.
Voilà. Et puis, on parlait tout à l'heure de l'administration. C'est vrai que dans le temps, l'administration se vidait, mais depuis la semaine passée, quand tu vois un peu les images, on sent quand même que... Bon, je ne sais pas si c'est parce que les ministres sont... Ils sont démissionnaires, c'est ça, non?
Non, ils assument les affaires courantes.
Ah, voilà. Je ne sais pas si c'est à cause de ces affaires courantes que certains n'y sont pas, ou bien ils attendent la grande finale de PIA avant de pouvoir s'y rendre. Mais on a remarqué que, bon, les ministres qu'on voyait tout le temps au niveau des arènes, il faut reconnaître qu'on ne voit plus assez des ministres. Depuis samedi, j'ai vu que trois ministres.
Ce n'est que le début.
Bon, c'est ce que j'ai dit. Peut-être que la grande finale de PIA, ou bien, bon, comme d'autres ministres aussi dans certaines localités pourront également rallier CARA, mais il faut reconnaître quand même qu'il y a un changement au niveau effectivement de la participation de l'administration au niveau effectivement de cette fête.
D'accord. Nous allons quitter le sujet.
Oui. Là, il faut donc revenir sur vos propos pour dire que l'administration publique n'est pas vidée. Si on a constaté qu'il n'y a pas assez de ministres sur ce terrain, ça veut dire qu'il y a des dispositions qui ont été prises pour ne pas vider l'administration publique.
Mais il y a un problème qui s'est posé parce que les ministres sont actuellement sur les affaires courantes. On ne sait pas à tout moment. On peut nommer un premier ministre où on va dire venez faire passation de service.
Oui, mais
le ministre ne peut pas quitter par exemple.
Tous les ministres ne sont pas au nord. Beaucoup ne sont à Lomé en poste. Donc,
mais quand on dit que l'administration publique est vidée, est-ce que ça se résume à la question de les directeurs généraux, les directeurs de cabinet, les secrétaires généraux, les chefs de division,
même les journalistes privés.
Ben voilà, y compris toi comme
d'accord, je voudrais qu'on quitte le sujet. ses confrères, c'est passionnant. Mais je voudrais qu'on quitte le sujet, qu'on parle maintenant de cette UDN. On va parler de cette condamnation de la Cour de justice de la CEDEAO. On condamne le Togo dans cette affaire, alors des enseignants licenciés. Ça s'est passé en 2022. Ils sont au nombre alors de 53, ces enseignants qui ont été alors licenciés et qui ont porté plainte au niveau de la Cour de justice de la CEDEAO. Et le mercredi dernier, la Cour leur a donné raison l'État togolais doit leur payer pratiquement 10 millions chacun. C'est l'image quand même du pays qui, aujourd'hui, prend un coup.
Oh, tu sais, moi, je n'ai jamais été content du licenciement de quelqu'un, que la personne soit enseignant, qu'elle soit. J'ai toujours souhaité qu'il y ait un consensus, qu'il y ait des échanges, des discussions pour aboutir à un consensus. Nous avons tous constaté la façon dont beaucoup de ces enseignants ont souffert. Certains parmi eux ont entamé par le service de taxi-moto et beaucoup ont trouvé de la mort là-dedans. Donc, personne ne pouvait se réjouir qu'en était le niveau des différends qui existaient entre ces mouvements d'enseignants et le ministère en charge de leur corps, en plus le ministère de la fonction publique. Aujourd'hui, si la Cour de justice de la CEDEAO, c'est ça, oui, condamne le Togo et exige ce paiement à hauteur de 10 millions par enseignant, bon, moi je dis que 10 millions ne peut pas remplacer votre vie. Hein. 10 millions, c'est rien du tout. S'il faut calculer en fonction de toutes les carrières et tout, 10 millions, ça ne peut pas combler la vie d'un enseignant. Je souhaite plutôt que pour les prochaines fois, que les gens mettent bas la terre, que les gens reviennent sur terre carrément pour dépasser certaines limites et maintenir. On va prendre des sanctions contre eux. Vous savez, peut-être on pourra me dire que c'est la loi, oui, je ne suis pas juriste, mais quand même au-delà de la loi, il y a quand même, à certaines conditions, il faut atténuer, il faut tolérer, il faut permettre à ses pères, à ses mères de famille de continuer leurs fonctions. Donc, c'est au Togo de voir. Nous allons rester à l'écoute pour voir si la sanction sera exécutée ou bien elle ne sera pas exécutée, comme c'est la Cour de la CEDEAO qui a jugé, qui a sanctionné. On va voir si ces enseignants-là bénéficieront de ces 10 millions chacun. Mais pour la prochaine fois, vivement que les ministres qui seront à ces postes-là fassent autrement, parce que cela aussi va détruire ou renforce la cohésion sociale. Oui, quand ça se passe comme ça, il ne faut pas penser que c'est sans conséquences négatives, c'est avec beaucoup de conséquences négatives. Donc, il faudrait que pour la prochaine fois, que les ministres qui auront la chance de gérer la fonction publique et le ministère, bon, souvent, de l'enseignement, qui soit un peu tolérant envers les enseignants.
Didier, est-ce que vous comprenez le fait que déjà les enseignants ne se sont pas plaints au niveau national, mais ils sont partis plutôt au niveau régional, c'est-à-dire au niveau de la Cour de justice de la CEDEAO, et pour se plaindre, et finalement ils ont raison?
Ben, certains vous diront que c'est parce que les enseignants savent que l'État est un monstre froid. Quand un État, vous avez affaire avec un État, en interne, il va être compliqué pour vous d'avoir raison devant l'État, devant ses propres juridictions. Après, on peut dire tout ce qu'on peut dire, mais nous restons quand même des pays africains en apprentissage de la démocratie, donc des pays qui tentent de s'ouvrir à la démocratie difficilement. Et donc, moi, je ne vois pas on puisse avoir une justice qui contredit l'État dans une démarche où l'État est en train de faire un peu, le mot qui me vient, c'est un peu de répression sur une association jugée illégale et non reconnue, et une justice en interne en train de donner raison à cette association ou à ce groupe d'individus face à l'État. Pour le moment et à l'instant où nous parlons ici, ce n'est possible au Togo. Et donc, ces enseignants ont estimé qu'ils ne pourront pas avoir raison devant la justice, ou carrément que le dossier ne pourra pas connaître une nette évolution. déjà qu'on leur reconnaît pas, on leur reconnaissait pas l'existence de leur association. Mmh. Et donc, ils ont dû se référer directement à la Cour communautaire qui jugeait, impartial, qui a dû examiner le dossier. Et vous avez vu que dans son arrêt, la Cour a dit que l'État avait raison, enfin, que l'État n'avait pas reconnu l'association et donc que l'association, naturellement, n'existait pas légalement et tout ça, mais que le fait de les avoir licenciés sans autre forme de procès est une violation de leur droit au travail. Et donc, à partir de ce moment-là, on va tous s'en tenir à ce que la Cour de justice de la CEDEAO a dit. La Cour a-t-elle dit le droit ou n'a-t-elle pas dit le droit? La Cour est composée d'éminents juristes. Le Togo a adhéré au mécanisme de cette Cour. Et donc, oui, la Cour vient de...
Et il y a un Togolais même au niveau alors de cette Cour.
Naturellement. Donc, le qui est d'ailleurs le greffier.
Tout à fait.
Maître Yaouza, oui, voilà, oui. Qui est le greffier de la Cour. Donc, si la Cour arrive à prendre cette décision-là, en coupant la Cour en deux, en donnant dans un premier temps raison à l'État sur la question de la légalité de l'association qui n'avait pas été reconnue, mais en condamnant l'État après coup du fait d'avoir licencié ses enseignants sans autre forme de procès. Donc à l'État togolais aujourd'hui de tirer toutes les conséquences, de dire voilà, ok, l'affaire est allée devant une juridiction communautaire, j'ai été condamné. Ces enseignants, depuis trois ans, pour la plupart, ont souffert. Des gens sont morts dans cette histoire. Des gens ont connu beaucoup de difficultés. Est-ce qu'on les dédommage, comme la Cour l'a recommandé, 10 millions chacun? Donc, c'est pas trop pour l'État, ça va pas tuer l'État togolais, hein, c'est quand même. Donc, ça va faire 530 millions. On pourra leur trouver ça. Donc, pour éviter que ce dossier-là ne traîne encore, ne continue. Mais la meilleure des choses, c'est qu'on aurait pu aimer que le nom du Togo ne soit pas tout le temps systématiquement devant la Cour de justice de la CEDEAO et que systématiquement, que le Togo soit condamné toujours quelque part, soit à violation de droits de l'homme, violation de liberté d'expression ou violation de droits de travail, systématiquement condamné. Après, quand vous êtes togolais, ça vous dérange un peu.
Cela remet en cause, Karma, la compétence de ceux qui avaient pris la décision de licencier ces enseignants. C'est ça. Si on doit les dédommager, effectivement.
Vous savez, Dizzy disait tout à l'heure que 500 millions, c'est rien pour l'État, mais vous prenez 530 millions.
Oui.
Mais vous prenez 530 millions, vous voyez combien de forage 530 millions peuvent faire dans un village. C'est beaucoup de forage. Donc je crois qu'il ne faut pas minimiser cette somme. C'est beaucoup d'argent, mais c'est quand même dommage pour le pays que, comme il a dit tout le temps, lorsque les compatriotes togolais se sentent lésés dans leur pays par leur justice, que les Togolais soient toujours obligés de faire recours à la Cour de justice de la CEDEAO.
Ouais, et finalement, Jacques, sur ce point, finalement, ils ont toujours raison, c'est-à-dire la Cour arrive à dire le droit et on demande quand même que ces gens-là, ces plaignants soient rentrés dans leur...
Il faudrait vraiment interpeller notre justice. C'est-à-dire qu'il faut interpeller nos juges. Parce que je ne sais pas, les gens vous diront, mais quels droits eux, ils ont fait et quels droits ceux de la Cour de justice de la CEDEAO également ont fait. Et finalement,
c'est le Togo qui est condamné.
Donc je crois qu'il faut vraiment une refonte de la justice togolaise. C'est-à-dire qu'il faut toujours dire le droit, même s'il y a des risques que vous encourez, mais quand même il faut le faire. Aujourd'hui, comme il a dit, tout le temps, la CEDEAO, vous vous rappelez, la CEDEAO condamne le Togo à payer, vous vous rappelez l'histoire des députés de l'ANC et tout ça. Aujourd'hui, voilà encore les enseignants. Donc je crois qu'il faudrait quand même réfléchir sur notre justice au Togo, parce que, quoi qu'on dise, le baromètre de toute démocratie dans un pays, c'est d'abord la liberté. Donc si les compatriotes ne sont pas libres dans leur propre pays, ils sont obligés d'aller demander le recours de quelque part, vous croyez que quand même ça fait débat?
Ça fait débat.
Et si tu fermes, j'ajoute un mot.
Ils seront rétablis dans leur fonction, les enseignants.
La Cour n'a pas dit. La Cour, sur la question de la grève, la Cour a dit que, vu que l'association n'était pas reconnus par l'État. Voilà. Donc, leur affaire de grève n'était pas énorme. Mais, en fait, sur le licenciement, le procédé même du licenciement, la Cour estime que c'est un licenciement abusif. Il faut leur payer. Mais je pense fondamentalement que pour éviter cette histoire de cour de justice de la CEDEAO et systématiquement le Togo condamné à payer des dommages et intérêts, voilà, même l'ancien Premier ministre qu'on a enterré dernièrement, la Cour lui avait donné raison, et le Togo devrait lui payer des choses et tout ça. Lui, il est mort, maintenant, on l'a même enterré.
Vous voulez parler de docteur Agbeyome?
Naturellement. Et donc, du coup, systématiquement, je crois que ça doit être une question de volonté politique. Est-ce que, de façon volontaire, on ne veut pas donner des coups de franche à la justice, de connaître des dossiers qui ne sont pas si sensibles que ça, licenciement des enseignants qui réclament et tout ça, pour qu'on puisse véritablement avoir une justice qui au moins règle ces petits dossiers-là
en interne. D'accord, merci beaucoup Didier, merci cher confrère. Nous allons en arrêter là par rapport au débat ici en studio et nous allons donner l'opportunité aussi à nos auditeurs de participer à ce débat. Mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs.
Canal FM.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse de ce lundi. Maintenant, vous pouvez participer au débat sur le 91 36 63 75. 91 36 63 75, c'est le seul numéro sur lequel vous pouvez participer à ce débat. Premier auditeur que nous insérons. Allô?
Allô, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Ça va très bien, c'est Johannes.
Johannes, allez-y.
Oui. Bon, c'est principalement pour intervenir par rapport fait traditionnel en général et valable en particulier. Je ne pense pas que on peut parler d'harmonie en parlant de valable. À mon âme, la vie, je ne pense pas qu'on peut parler d'harmonie par rapport aux autres fêtes traditionnelles. Et même si harmonie, on peut forcer le mot pour qualifier ça d'harmonie, je pense que c'est une harmonie forcée, pour me répéter. Parce que l'ancien chef de l'État n'aurait pas été de cette origine que je pense que la manière dont il a dit que les fêtes traditionnelles se célèbrent dans cette localité, même de maison à maison, je pense qu'on aurait assisté à ça, même au niveau des valas. Je ne suis pas de cette origine, mais je pense que si on fouille bien, on a le même nom au rite et voilà, mais forcément il doit y avoir des nuances selon les communautés. C'est toujours comme ça. Peut-être qu'il y aura des nuances dans la manière de célébrer, dans les rites, mais c'est toujours et voilà. D'ailleurs, même la langue kabyère, si je me trompe, il n'y a pas qu'une seule langue kabyère. Si peut-être ce n'est pas deux, peut-être il y en aura plusieurs. Tout comme le V, il y a différentes nuances dans le V. Le kabyère aussi, c'est comme ça. Donc forcément,
on parle de dialecte.
Voilà. Donc forcément, ça se ressent dans les rites. Mais étant donné que Nyansimbe était et Adema était de cette origine, donc tout ça a été fait en sorte que ça devienne quelque chose qui vient dans la localité pour assister, mais ça devient quelque chose comme un mouvement d'ensemble. Voilà. Le chef de l'État aurait été, par exemple, originaire, l'ancien Adema aurait été originaire de Ganeron, par exemple. Je pense qu'on n'aurait jamais assisté à ce qu'on assiste lors de Christos et tout ça.
D'accord.
Donc, c'est un peu ça.
D'accord. Merci beaucoup, Johannes, pour votre intervention. 91 36 63 75. 91 36 63 75. Allô?
Oui.
Bonjour.
Allô?
Oui, bonjour.
Oui, bonjour.
Votre nom, c'est?
Oui, c'est Pelé.
Oui, Pelé.
Ok, je salue le plateau.
Le plateau aussi vous salue.
Ok, je pense que pour les fêtes traditionnelles, plus souvent dans cette période-là, je pense que c'est la fête traditionnelle qui est en vogue. Et comme l'a dit le plateau, et voilà. Je pense que c'est depuis le retour triomphal de Yadema le 2 février 1974 que ça a commencé comme ça. Et ça, et à l'époque, au temps de Yadema, c'est un mois qu'on fait. On ne dépasse toute l'administration. Mais aujourd'hui aussi, l'administration peut être dépassée. C'est-à-dire Togo, Telecom, Togo, c'est tout ça la fête de passer là-bas. Est-ce que ça dit. Ça, là aussi, il faut qu'on interpelle la Prussia de faire aussi cette enquête-là. Comment ça s'évolue? l'évaluation de l'arbitration de l'État là-bas. Comment on fait ça? Parce que ça, c'est la contribuable togolais. Nous n'allons pas exagérer. Si moi, je l'ai dit toujours, si le chef de l'État peut se te saisir dans les autres régions aussi pour aller chaque région par un pour pour la célébration, ce serait une bonne chose aussi. Parce qu'à l'époque, on sait que c'était la Macara. Aujourd'hui, c'est devenu Cara aussi. Nous n'avons pas réécrit l'histoire. Je voudrais parler de la condamnation du Togo de la CEDEAO. Mm. Voulons voir si dans le Togo, la CEDEAO, c'est 15 pays. Quels sont les pays qui sont aussi condamnés comme le Togo? Quels sont les pays? Dans tout le temps, on dit le Togo est condamné. Mais ces juges-là qui sont à la CEDEAO, ce sont eux qui condamnent le Togo là-bas. S'ils sont revenus au Togo maintenant, ils vont dire que le Togo a gagné. Mais est-ce que là, je suis togolais par rapport à la justice de la CEDEAO? Qu'est-ce qui se passe? Donc, je pense que il faudrait que le Togolais doit savoir que ce qui se passe de temps de et à débat, c'est ça qui continue toujours. Merci.
D'accord. Merci beaucoup, Pélé, pour votre intervention. 91 36 63 75. C'est sur ce numéro que vous pouvez nous contacter et entrer en contact avec nous, bien sûr. Allô?
Bonjour, Fanaf.
Bonjour, comment vous allez?
Allô? C'est Richard depuis Copenhague.
Ah, notre cher ami Richard depuis Copenhague. Richard, allez-y.
J'aimerais partir au débat. Tout ce que ça m'a fait pour les évalas. Que la distraction soit là ou pas, les papiers vont faire les évalas. Vous ne savez pas comment le cabinet se lève les évalas. Même avant, il y a des mains participés aux évalas, faisaient les évalas. Qu'il y a les autorités ou pas, nous allons célébrer les évalas. Souffler de ça, de voir ça comme ça. Le cabinet, il y a une telle tradition. Même en février, quand il y a les funérailles, rentrez à l'eau, vous verrez. Le cadet a toute sa tradition. Vous ne pensez pas que non, c'est parce qu'il y a des autorités, parce que Paul vient de la cause, que c'est comme ça. Non! Le jour que Paul ne serait pas au pouvoir, le cadet va toujours célébrer les événements. Merci.
Merci beaucoup, Richard. Depuis Copenhague, là, vous êtes au Danemark. Merci pour votre fidélité d'écoute. 91 36 63 75. Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, Basile.
Et comment vous allez?
Ça va, et chez vous?
Ah, je vous l'ai
dit. D'accord, allez-y.
Bon, vous parlez de notre justice, comment ça se passe? Nous, on n'attend pas que la CEDEAO condamne avant qu'on ne sache que le Togo ne fait rien de bon. Tout est fait en regardant quelqu'un. Donc, quand on le fait comme ça, et puis les gens viennent pour nous dire le contraire, pour suivre les médias, c'est ça qui est le désaccord, la pomme de discorde entre moi et ces gens-là. Après, ils disent que on se cache derrière nos téléphones. Ils nous ont cherché où? Et ils ne nous ont pas trouvé. Donc ça, ils n'ont qu'à tester de ces choses. Moi, ils ne me menacent pas. Voilà. Le Togo va être toujours condamné. La justice est aux ordres. C'est de ça qu'il s'agit. On ne va pas aller par quatre chemins. Ils n'ont qu'à comprendre ça. Mais quand vous venez, pour nous narguer, non, nous aussi, on ne va pas accepter quand même, hein.
D'accord. Merci beaucoup, Basile. 91 36 63 75. Personne ne nargue, alors quiconque ici. 91 36 63 75. Allô?
Oui, 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 c'est Monsieur Kofi.
Monsieur Kofi, comment vous allez?
Bien.
D'accord, allez-y.
J'ai souvent remarqué que lorsque les gens appellent de l'étranger, vous leur accordez beaucoup trop d'importance qu'à nous autres ici.
Ah bon?
Oui, 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 oui. Le monsieur de Copenhague.
Ce n'est juste qu'une impression.
Attendez, je vais parler. Le monsieur de tout à l'heure, il parlait, vous n'avez rien dit. Tout ce qu'il a dit, vous n'avez pas dit ça sur l'antenne. Mais vous l'avez laissé terminer parce qu'il est de Copenhague. On se connaît, monsieur de l'autre côté de l'océan, là, on se connaît. Hein? Non, mais il ne va pas dire des choses et puis vous allez vous taire. Est-ce que lui, il est de la même génération que monsieur le feu président et décédé? Pourquoi il dit que lui aussi, il avait fait l'Eva là? Il a assisté avec lui? Vous avez parlé de ça là-bas? Le sujet dont vous débattez, il n'a pas parlé de ça. Il est passé carrément à côté, mais vous ne lui avez rien dit. Serait-ce quelqu'un d'ici qui vous aurait appelé, vous allez le recadrer en même temps. Merci.
Merci beaucoup, Monsieur Kofi. Dieu merci que je vous ai laissé aussi parler. Vous avez tout dit, hein, et vous l'avez dit aussi en toute liberté. Alors, 91-36-63-75. Allô?
Oui, c'est Pélé qui revient.
Oui, Pélé.
Ouais, pour question de la fête traditionnelle, juste de Vala, et c'est un bon débat, mais on ne doit pas le politiser. C'est clair aussi. Mais si demain, il n'y a plus le président fort au pouvoir, est-ce que ce que nous voyons depuis dans les années 74 jusqu'à aujourd'hui, ça peut se reproduire? Si ça ne se reproduise pas, qu'est-ce que cette région-là va commencer par dire? Que quand il n'y a plus un fils de là-bas, on ne fait plus Vala. Mais ils n'ont qu'à essayer de voir, sans l'administration, on va voir. Sans la participation de toute l'administration. Parce qu'il y a toute l'administration qui se déplace. Ça fait plus de 50 ans que ça se passe. Au détriment des autres. Nous n'allons pas l'attaquer que nous sommes en train de faire la division ou bien de... Non, mais c'est une réalité qu'on est en train de relever. On relève des faits. On est en train de voir ça. Alors que dans les autres régions, quand on va se commettre maintenant, on va commencer par dire qu'on est en train de lancer les pierres, on fait de la pagaille là-bas. Alors que toute la vie là-bas, tout est sécurisé là-bas. Ce n'est pas comme les autres aussi. Merci.
Merci, Pélé. 91 36 63 75, c'est sur ce numéro que vous pouvez nous appeler et participer au débat de ce lundi. Allô?
Allô.
Allô, madame ici, bonjour.
Allô, bonjour.
Bonjour, madame ici.
Dis-moi, Pascal.
Oui.
Le deuxième numéro ne marche pas.
Non, non, ça ne marche pas.
Oh, essaie de voir ça.
Non, tout à fait. Nous sommes
là,
en tractation.
C'est la non-alternance qui a appauvri et qui donne ça. Bon, vous avez parlé des fêtes traditionnelles. Où le président va chez lui et méprise la fête des autres. C'est la non-alternance toujours qui va comme ça, où les gens ont pris la République comme leur bien. Leur bien. Et puis, on a enfermé les enseignants, les médecins, les artistes, les artisans, vous les journalistes, tout le monde travaille plus que les gouvernants, non? Vous avez un rendement noble, plus que les gouvernants qui gagnent grassement, qui nous ont jamais dit leur bien, déclaré leur bien. Awanana nous l'a promis, mais bon, rien. Et voilà. Et il y a combien de budget pour ces gens du truc? Vous, là-bas, vous avez combien par journaliste? 20 000 ou 30 000. Alors que vous devriez avoir, je l'ai dit, le pays est riche, le Togo est riche. On devrait vous allouer un budget de 10 milliards même. Vous devrez avoir 10 milliards, vous les journalistes, avant de vous supprimer au gouvernement qui se sucre grassement. Il y a combien de budget pour ces fêtes traditionnelles de part en part? On ne nous le dit pas, on gère la République comme ça. Et moi, j'aimerais que vous appelez le chef de l'État là. Il n'a qu'à venir nous parler après 20 ans là. Il n'a qu'à venir nous parler. Quand on lui demande pourquoi on se retrouve dans cet état là. Merci.
Merci beaucoup, madame. Et si, je pense que, Michel, nous avons encore quelques minutes alors, pour recevoir notre dernier auditeur pour le compte de cette émission. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Oui, c'est monsieur Jean.
Monsieur Jean, vous nous appelez de quel quartier?
J'appelle de Adidogomé.
Adidogomé.
Oui.
Allez-y.
Je ne sais pas pourquoi vous polémiquez sur les événements. Certains font leur fête. Certains se disent pourquoi ça ne s'est pas donné. Chacun a organisé sa fête de sa façon. Les Canadiens se sont organisés. Pas le trop jaloux comme ça. Et la jalousie, à moi, c'est la jalousie. Mais laissez-les librement. Et vous aussi, vous. Pour moi, c'est la jalousie. Merci.
D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Jean, pour votre intervention. Je pense que vous êtes le dernier auditeur pour le compte à l'heure de cette émission de ce lundi. Chers confrères, nous revenons en plateau pour faire un dernier tour de table avant de clôturer cette émission URL. Vous avez écouté les uns les autres se prononcer. Votre réaction?
Alors, ma réaction sur les propos des auditeurs... D'abord, remercier tous ceux-là qui ont appelé et dire que notre ami de Danemark, c'est ça.
Tout à fait, Richard.
Oui, bon, c'est son point de vue aussi. Je ne sais pas comment on allait le recadrer pour dire quoi. Lui, il a donné son point de vue en nous faisant savoir que même si le PR actuel n'est pas à sa place, les rites et valas auront bel et bien.
Tout à fait, c'est ce qu'il a dit.
Moi, je ne sais pas ce qu'il a dit de mauvais, c'est son point de vue. Bon, pour tout le reste, j'ai constaté que tout le monde s'est intéressé de la tradition. Une seule personne a parlé de la condamnation du Togo par la cour de la CEDEAO. Bon, c'est bien.
Jacques?
Non, je crois que pour une première fois, Madame Messi a plaidé pour
la cause des journalistes.
La cause des journalistes. Madame Messi, félicitations pour une première fois. Elle a demandé à ce qu'on puisse revoir l'aide de l'État à la presse à hauteur de 10 milliards. Je crois que c'est une bonne chose. Et ce que j'ai remarqué également dans ce qu'elle vient de dire, c'est que les journalistes font un travail vraiment noble. Et elle voudrait que chacun puisse continuer dans cette tâche. Et ce qui est important, il faut reconnaître que le travail que nous sommes en train de faire, ça c'est vrai, ce qu'elle a dit, c'est un travail vraiment noble. Et c'est un travail également qu'il faut reconnaître que même si aujourd'hui vous ne gagnez pas, ce qui est important, c'est que ça vous ouvre également les portes. Donc c'est ça l'essentiel. Donc merci à Daïssi pour une première fois d'avoir pensé à nous les journalistes.
D'accord. Didier?
Oui, je pense fondamentalement, moi j'ai pas beaucoup de commentaires à faire, mais je demanderai aux auditeurs, nous respectons leurs avis, mais des fois les débats que nous posons ici, le niveau quand même, les gens, tout le monde se permet d'insulter les journalistes, mais s'ils prennent beaucoup plus de recul pour écouter le fond de l'analyse que nous faisons ici, il n'y a jamais eu de stigmatisation de qui que ce soit, ni de quelque communauté
que ce soit.
Mais nous posons le débat. Nous savons que nous avons des clivages, mais nous posons le débat de façon un peu nationale pour voir comment est-ce qu'on peut tirer du bon dans tout ce que nous avons. Je crois que c'est tout ce qui nous anime, c'est ce qui est notre motivation d'ailleurs en venant ici.
C'est notre contribution.
Voilà, et c'est notre contribution donc pour un débat assez national, qu'on soit Kabier, qu'on soit Moba, qu'on soit Wati, qu'on soit, je ne sais pas, Kotokoli, qu'on se sente au final togolais, quel que soit ce qui se fait dans le pays, Evala, Epekbe ou tout ce que vous voulez, Adosa Gadaou ou pas, que au moins tout le monde se sente véritablement appartenir à la nation togolaise, c'est le sens de nos débats ici. Donc, c'est pas une question de quelqu'un jaloux de quelques communautés où non. J'ai entendu que des gens disent qu'on était jaloux.
Justement, le dernier auditeur.
Oui, qu'on était jaloux des gens qui sont organisés. Non, mais c'est loin de là.
D'accord. Nous sommes à la fin de cette émission. Note de fin d'émission, Uriel.
Bon, pas une note, mais je continue par attirer l'attention. Comme tu n'as pas eu le temps d'évoquer ce sujet, des consommateurs de la viande de porc, je sais que c'est le moment. De l'autre côté, c'est la viande la plus prisée. De faire beaucoup
l'autre côté, c'est
le porc.
C'est l'autre côté
dans la cause actuellement. C'est la viande de porc plus tout. J'attire leur attention que cette chair, selon l'OMS, qu'il faut qu'elle soit bien préparée, sinon elle est porteur des maladies comme la grippe porcine, la toxine, les parasites, et peut provoquer à tout moment les cancers. Donc c'est la viande là qui se trouve dans toutes les assiettes actuellement au cours de cette semaine. Donc faites attention, si vous voulez la consommer, préparez sérieusement jusqu'à 160 degrés Celsius.
D'accord, merci beaucoup Uriel. Jacques, votre note de fin d'émission?
Non, je n'ai pas de note, mais invitez nos populations à rester toujours vigilantes par rapport à l'insécurité également. Nous avons appris ce qui s'est passé au niveau de la Golouvée hier. Soyez prudent.
Vous voulez parler du braquage?
Du braquage qui a eu lieu. Soyez prudent, chers compatriotes, lorsque vous vous déplacez. Et quand vous sentez vraiment que ça ne va pas, il faut alerter la police, la gendarmerie, pour qu'on puisse venir à votre secours.
D'accord.
Pour ceux qui on a braqué, ceux qui sont malades, ceux qu'on a blessés, et peut-être que ceux qui sont décédés, mes condoléances les plus attristées aux familles.
D'accord, ok, merci beaucoup Jacques. Didier?
Non, pas de note. Donc bonne semaine à tous ceux qui nous suivent et beaucoup de courage à ceux qui n'ont pas pu avoir le bac. Il paraît que c'était catastrophique encore.
On va en parler demain.
Donc
déjà.
Beaucoup de courage à ceux qui nous ont
privé de
non, je ne vous ai pas privé de sujet. Mais merci beaucoup Muriel, merci Jacques, merci Didier d'être passé dans cette émission. Ça fait toujours plaisir d'être avec vous pour animer ce débat. Merci. Nous sommes à la fin de cette émission. Merci à vous tous qui nous avez suivis, vous qui nous avez appelés aussi. Merci à vous pour votre contribution à ce débat. Merci à Michel Tomega qui a assuré la mise en onde. La mise en ligne a été assurée par Jérôme Akoucha. Je suis Pascal Lossou. Je vous retrouve demain à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien.